j'ai à mes côtés le directeur du Festival de Jazz en Touraine. Hein. C'est vraiment pas n'importe qui, donc je suis vraiment content.
Ça rigole pas du tout.
Donc, pouvez-vous vous présenter ? Vous êtes le directeur du festival, donc ?
Alors, je suis Boris Kurtz, directeur du festival depuis 2 ans. Donc, je succède à Camille Poirier, qui a assuré ce poste pendant 10 ans. Et bien avant elle, François Bureau, qui lui a été présent pendant 18 ans. Voilà, donc 30 ans, si on cumule les trois, ça fait 30 ans de présence sur Jazz en Touraine.
Et quel est votre rôle, en fait, par rapport à ce festival ? Est-ce que vous supervisez le tout ou pas ?
Alors, ma fonction, donc, c'est directeur du festival. Ça englobe plusieurs fonctions. Donc, à la fois la programmation, en bonne intelligence avec le président Jean-Jacques Filleul. Je pense qu'on est assez complémentaires sur la programmation. Et aussi avec l'équipe qui s'occupe de la programmation du OFF, puisque ça, on le sait peut-être peu, mais en fait, il y a un collectif de plusieurs personnes qui travaillent, qui écoutent, qui sélectionnent tous les artistes qui postulent pour le OFF. Voilà, donc en dehors de la programmation, je travaille sur la coordination générale du festival. Voilà, avec plusieurs personnes, notamment une assistante qui s'appelle Catherine Augeret, et puis des stagiaires qui nous rejoignent pendant quelques mois avant le festival et qui vont terminer donc fin septembre.
D'accord, et justement, vous parlez de programmation. Comment on choisit la prog d'un festival comme celui-ci ? Est-ce que c'est en fonction de quoi, en fait, qu'on
Alors,
choisit les artistes ?
La volonté du président, la volonté du conseil d'administration, c'est de proposer un festival grand public, avec des artistes très accessibles, avec une politique tarifaire assez peu élevée, sachant que sur 56 concerts cette année, il y en a pratiquement 2/3 qui sont totalement gratuits pour le public.
Oui.
Ensuite, pour ce qui concerne l'espace Ligeria, donc la salle de 900 places et le Magic Mirror, un espace de 300 places, on travaille, on fait de la dentelle, c'est-à-dire qu'on cherche des spectacles appropriés, soit pour l'une, soit pour l'autre salle. Et après, on est bien sûr tributaire de plusieurs facteurs, dont la disponibilité des artistes. Pour ce qui est des étrangers, notamment des Américains, c'est toujours un peu délicat le mois de septembre, parce qu'ils sont repartis pour la plupart aux États-Unis. Donc, il faut les faire revenir pour une date, voire deux, sur la France, et notamment à Mont-Louis. Ensuite, il y a des critères, bien sûr, économiques. C'est-à-dire qu'il y a des artistes sur lesquels on rêve, mais qu'on ne peut absolument pas s'offrir à Mont-Louis. Puisque dès que ça dépasse une certaine somme, malheureusement, on ne peut pas du tout aller dans cette direction, sachant qu'une salle de 900 places ne permet pas d'amortir des spectacles au-delà de 20 000 euros, bien évidemment.
D'accord. Donc en fait, on a pu voir qu'il y avait des artistes très très jazz et d'autres un peu moins. Est-ce que c'est voulu ça par rapport à la programmation ou...
Tout à fait, c'est tout à fait voulu. On a un jazz très très ouvert. Surtout pas élitiste, hein, ça rejoint mon propos précédent. Mm-hmm. Et donc, on a des formes avoisines, qui voisinent du jazz, qui avoisinent le jazz. Et je pense au blues notamment. Donc, cette année, dans la programmation, vous avez eu un concert pour la soirée du 30e anniversaire avec Jean-Jacques Milteau. Donc, une forme blues musclée, hein, presque rock par moment. Le vendredi 17, nous avons une soirée avec Martha High, qui était une soirée plutôt soul, rhythm and blues. Hier soir, Lisa Simone, c'était encore une autre approche, assez mélangée. Voilà. Demain, ce soir, nous aurons de la musique cubaine, un groupe cubain, qui n'est pas nécessairement du jazz, mais qui mélange beaucoup d'influences et beaucoup d'instruments, surtout utilisés dans le jazz. Et demain soir, nous aurons un gros big band de jazz du début du XXe siècle, 1920-1930. Les musiciens ne sont pas si vieux que ça, hein. C'est l'esprit de la musique qui prédomine. Voilà, et l'idée, encore une fois, c'est d'ouvrir le maximum. Bon, on ne va pas faire non plus de la variété, on ne va pas aller marcher sur le territoire d'autres manifestations. Je pense à Terre du Son, par exemple,
oui,
ou d'autres.
C'est complètement différent.
Voilà, c'est totalement différent. Mais c'est vrai que c'est un jazz ouvert. Alors, l'idée d'avoir, enfin, l'intérêt d'avoir deux salles de spectacle, donc le Magic Mirror et Ligeria, c'est qu'au Magic Mirror, on peut se permettre de faire des choses peut-être un petit peu plus pointues avec des artistes en développement. Je pense par exemple à David Enko, qui est venu samedi dernier, qui fait un jazz un peu multiforme, mais c'est une musique qui reste accessible, mais qui est peut-être un peu plus pour experts en jazz. Par contre, que ce soit ce soir avec Mathieu Boré ou demain soir avec Ray Lema et Laurent De Wilde, ce sont des musiques faciles entre guillemets. Le niveau est très très élevé, mais ça reste très très abordable, ouais, très accessible.
Alors, est-ce que vous avez déjà choisi quelques artistes pour la programmation de l'année prochaine ? Est-ce que vous pouvez nous faire part de ça en exclusivité ou
non,
pas ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, ça va rester secret un bon moment. On y réfléchit depuis un petit moment, bien évidemment. Oui. À la fois sur des envies, à la fois sur des possibilités, hein. Comme j'expliquais tout à l'heure, il faut qu'on soit à l'écoute des tournées possibles au mois de septembre. Il faut savoir qu'au mois de septembre, il y a à peine 10 festivals en France. On est toujours en été. Beaucoup de gens pensent que l'été s'arrête fin août, mais bon, l'été s'arrête autour du... On doit être d'ailleurs là charnière, on doit passer en automne, je pense, aujourd'hui peut-être.
C'est ça, voilà. On est en automne. Ouais,
et il y a une dizaine de festivals, donc il y a bien sûr Mont-Louis, il y a le festival Jazz à la Villette, le festival de Colmar, le festival de Cavalaire, je ne vais pas tous les citer. Donc on essaye aussi, nous, à cette époque de l'année, de trouver une synergie avec d'autres festivals, de façon à... s'épargner quelques coûts de transport qui viendraient un peu plomber le coût du spectacle. On a travaillé comme ça avec la Villette il y a 2 ans pour Roberto Fonseca, donc on a partagé les frais de transport, etc. On l'a fait pour Colmar, avec, il y a quelques années, avec un autre artiste dont j'ai oublié le nom, un guitariste. C'est pas toujours facile puisque on n'a pas nécessairement la même programmation d'un festival à l'autre, mais quand c'est possible, chacun y trouve un intérêt et on le fait volontiers.
D'accord, donc vous travaillez vraiment avec d'autres festivals jazz en fait.
On travaille avec d'autres festivals, on est à l'écoute d'autres festivals, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, il faut se tenir à l'écoute.
Se tenir à l'écoute, ouais.
Moi, dans la programmation, quelque chose aussi que je n'ai pas cité, c'est je fais très attention à ce que programment les salles avoisinantes. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette 30e édition, nous avions envisagé d'accueillir Pink Martini, qui nous paraissait être une belle formation pour un 30e anniversaire. Et quand j'ai vu que le groupe se produisait à Vinci le 1er octobre prochain, on a renoncé à la proposition. Ça ne servait à rien de les programmer ici, alors qu'ils viennent dans 15, même pas 15 jours à Tours. Pareil pour Marcus Miller, j'avais envisagé un moment d'accueillir Marcus Miller, et en fait, il est déjà venu au Vinci dans la saison, donc le faire revenir à quelques mois d'intervalle, je ne sais pas si le public local est assez important pour assurer une deuxième représentation. Une salle aussi à laquelle je fais assez attention, puisque en distance, on n'est pas très très loin de Blois, hein. Blois, c'est à peu près une demi-heure de route d'ici. Et il y a, depuis quelques années maintenant, un cinéma à Blois qui s'appelle Les Lobbies et qui programme au moins une fois par mois un concert de jazz. Donc c'est dans la salle de cinéma. Et ils ont un réseau maintenant sur la France entière qui touche une dizaine de salles. Donc les tournées commencent souvent à Blois. Et donc je fais toujours très attention là aussi à regarder la programmation de Blois pour ne pas nous retrouver avec un groupe qui passerait à quelques kilomètres d'ici à peu près à la même époque.
D'accord. Concernant cette année c'est les 30 ans, est-ce que les gens se déplacent pour venir à ce festival ? On sait qu'on a eu des jours pas très très faciles d'un point de vue, du point de vue de la météo. Ça, on a eu des jours où il a plu beaucoup. Est-ce que ça marche quand même bien jusque-là ou
oui,
pas
non.
Trop
oui, non. Les salles elles-mêmes donc, sont à l'abri de la pluie, heureusement pour
en
nous.
Intérieur,
donc là,
ouais.
ça ne décourage personne. Et pour ce qui est du plein air, parce que tous les concerts du off ne sont pas nécessairement en plein air. Mm-hmm. Je pense à Véretz, par exemple. Le concert a lieu à la salle Eugène Bizot. Il y a d'autres villes dans la programmation qui proposent une structure abritée. Mm-hmm. Mais effectivement, pour les concerts en plein air, vraiment en plein air, c'est toujours délicat de faire ça au mois de septembre. Ceci étant, c'est aussi délicat de le faire au mois de juin que de le faire à un autre moment, puisqu'on n'est jamais assuré, même au mois de juin, d'avoir du beau temps.
Bien sûr.
L'an passé, cette année... Nous n'avons rien annulé. Et pourtant, l'année dernière, le temps était encore plus capricieux que cette année. On a eu des averses par moment. Je crois qu'on, comme le dit la formule, on est passé entre les gouttes. On a réussi à faire ça. C'est-à-dire qu'il a plu souvent jusqu'au au moment de la balance, c'est-à-dire en gros une heure et demie avant le concert. Ça s'est arrêté, on a eu le temps de faire le concert et ça s'est remis à pleuvoir une fois que le concert était terminé. Donc ça, c'était plutôt bien.
Chance.
Donc l'incidence de la météo sur la fréquentation, c'est possible. En même temps, il y a une bonne dynamique. Si je prends le cas du village gourmand à Mont-Louis, il y a une bonne dynamique qui est liée aussi à la présence des commerçants hein, qui proposent à boire et à manger ou à manger et à boire. Et voilà, donc il y a une dynamique qui est installée sur ce site. Et je ne pense pas, à moins qu'il y ait un orage de grêle ou... Si, j'ai un souvenir en 2014, malheureusement, d'une annulation. Il y a eu une averse terrible un dimanche après-midi, dès le premier concert. Je me souviens que c'était encore Stéphane Huchard à la batterie, Olivier Louvet à la guitare. Et dès le premier morceau, voilà, les gens sont partis sous les rafales. Et ça, malheureusement, ça a coupé court à tout concert l'après-midi. Donc c'était pas une belle fin. Hein. C'était en 2014, c'était pas une belle fin. Voilà. Donc je ne sais pas vous répondre vraiment sur l'incidence que ça peut avoir. Ponctuellement, éventuellement, comme je viens d'expliquer, mais sur la globalité, non. Et en fait, on est plutôt bien servi cette année. Hein. Il a plu effectivement la semaine dernière un peu, un peu beaucoup même à certains moments. Mais dans l'ensemble, là cette année, cette semaine, c'est très très confortable.
Ça va, oui, comparé à d'autres festivals qui eux ont un peu plus souffert. Écoutez, je vous remercie de nous avoir accordé votre temps. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps.
Merci de nous avoir accueillis. Voilà. Je sais que vous êtes sur place, en plein festival. Alors, je n'ai pas le temps d'écouter toutes les émissions, mais voilà, je sais que vous faites un gros travail auprès des artistes, auprès des bénévoles. Vous avez interviewé plein de gens. Donc, merci.
C'est moi. Au revoir.